Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alternative football.
Ouais, salut mon pote. Écoute, j'espère que ça va. Dis-moi, je sors de Décathlon là. Figure-toi, je voulais acheter une paire de crampons Nike à mon fils et bah, j'en ai pas trouvé. Ils ont plus l'air de référencer Nike et puis y avait surtout la mise en avant de leur marque, tu sais, Kipsta. Et j'étais hyper surpris par les modèles, ça a vachement évolué depuis mon époque. Je sais pas si t'en as déjà porté toi ou si t'en as déjà pris pour tes enfants du Kipsta, mais je trouve que ça a quand même pas mal changé.
Si j'ai porté du Kipsta, si j'ai porté du Kipsta, non, j'en ai pas porté.
Ah ouais, carrément, toi ça te fait rire, tu te moques ouvertement de la marque. Écoute, je pense que ça nous donne un bon prétexte pour inviter Frédéric Boistard, qui est le boss de Kipsta, et qui, je pense, va pouvoir nous expliquer pourquoi il n'y a plus lieu de rire de Kipsta, au contraire, et qui va pouvoir nous raconter le chemin qu'a fait la marque jusqu'ici. Bah écoute, si ça te chauffe, tu me dis, et puis on se boucle ça. Et d'ailleurs, je t'en ai pris une paire, hein, pour que au moins tu juges sur pièce. Allez, je t'embrasse.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous, bienvenue pour la dernière de la saison. Figurez-vous, l'épisode 16. Comment ça va, Edouard ?
Ça va très bien.
Très heureux d'être là et de recevoir Frédéric Boistard de Kipsta. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de m'avoir lancé l'invitation, les gars. Je suis très content d'être là, je suis en pleine forme.
On va commencer avec la traditionnelle question pour ouvrir le débat, qui est la suivante. Souvent déconsidéré, Kipsta va fournir le ballon de la LFP à partir de la saison prochaine.
Oui.
C'est quoi le secret de la métamorphose ?
Le secret, en fait, c'est avant tout le produit. Parce que quand on propose, en tout cas quand on postule pour être le ballon officiel de la Ligue 1, de la Ligue 2, vous doutez bien qu'on ne peut pas arriver avec un produit moyen. Et le vrai sujet, c'est ça. Et donc nous, ça fait quelques années qu'on a investi énormément et qu'on a beaucoup d'ambition autour du ballon. On a investi dans de la conception. On a des ingénieurs, des designers, on a des laboratoires. On fait tous les tests que la FIFA réclame. On les fait dans le Nord, au niveau de notre siège, qui s'appelle le Keep Stadium. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on a développé un ballon qui est homologué FIFA Pro. Et puis ça fait 10 ans que notre ballon, on va sur les terrains et puis on récupère des avis. On travaille beaucoup avec des joueurs professionnels, des partenaires. Et puis depuis 2 ans, on avait développé un ballon qui était de meilleure qualité encore que ce qu'on faisait auparavant. Et puis on a essayé de le faire comparer avec le ballon de la Ligue 1, mais de la Liga, de la Première Ligue, de la Coupe du Monde. Et puis en fait, on s'est rendu compte que notre ballon, il était très très bon et que scientifiquement, il était quasi équivalent.
Comment on fait des comparaisons alors ?
On fait des comparaisons de deux manières différentes. On les fait d'abord en laboratoire. Parce qu'il y a des tests, et donc les ballons, on peut tous les comparer scientifiquement, et on sait à la virgule près ce qu'ils valent. Et puis après, on les fait surtout sur le terrain, parce que c'est pas à toi que je vais expliquer ça. Entre un bon ballon et un ballon moyen, des fois, c'est des petites sensations. C'est est-ce qu'il part bien, est-ce qu'il flotte bien, est-ce qu'il a le bruit qu'il fait, est-ce que j'ai des bonnes sensations, est-ce qu'il accroche bien. Et donc ça, on l'a fait. Nous, on a la chance dans la marque d'avoir des anciens bons joueurs, dont certains ont été professionnels, sans avoir fait forcément une carrière flamboyante, mais ont été quand même professionnels. Donc on a quand même quelques quelques sensations. Et puis, on a aussi des partenaires techniques, une vingtaine de joueurs. Et donc, on a fait des tests avec eux. Ça nous a permis également d'aller dans certains clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Et puis, d'être super bien accueillis par les coachs d'équipe première qui nous ont laissé, sur une séance, deux séances, trois séances, tester notre ballon, le mettre au milieu des ballons des championnats classiques. Et puis, de récupérer en fin de séance, sans aucun filtre, tous les feedbacks des joueurs. Bien, pas bien, ça, faudrait l'améliorer. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que notre ballon, il avait vraiment rien à envier avec ce qui se faisait de mieux aujourd'hui. Et donc ça nous a donné beaucoup de confiance. Et puis ça nous a permis de dire, oui, aujourd'hui, la Ligue va chercher à remplacer le ballon. Se pose la question, en tout cas, de mettre différents équipementiers en comparaison. On n'a pas à rougir, les gars, on a un super bon ballon, donc on va y aller. Donc la première raison, c'est qu'on avait la certitude d'avoir un ballon au top niveau.
Tu parlais de test, donc le test sur le terrain, je pense c'est relativement simple. Il joue avec le ballon et puis après, il vous donne un ressenti. J'aurais d'ailleurs une question peut-être après sur ça, ouais. sur ce qu'ils peuvent dire sur un ballon. Mais ma première question, quand tu parlais de test en labo, c'est quoi un test en labo pour un ballon? Est-ce que c'est, une machine? Moi, je vois comme ça un peu dans mon imaginaire, une machine qui tape le ballon autant de fois que possible pour tester la résistance. On parle de ça ?
On parle de ça, mais pas que. C'est-à-dire que la FIFA, pour déterminer qu'un ballon doit être FIFA Pro, il y a 7 tests qui sont mesurés, dont un des tests, c'est un test de shoot. Donc le ballon, il est envoyé dans une machine, exactement celle que tu décris, 2500 fois à 50 km/h contre une plaque en béton. Donc ça, c'est un des tests, c'est un test de résistance. Il y a des tests de rebond, des tests de sphéricité, des tests d'absorption d'eau, des tests de trajectoire. Donc il y a des tests qui sont tous normés et on doit respecter, la fourchette elle est très 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 faible et on doit respecter en tout cas sur chacun des tests la tolérance qui est donnée par la Ligue, par la FIFA pardon. Et en plus, nous on a rajouté d'autres tests parce que notre métier bien sûr c'est de faire des ballons au plus haut niveau mais c'est de permettre aussi aux clubs amateurs et aux particuliers de les avoir. Et il y a des tests qui sont pas du tout faits par la FIFA qui nous intéressent. Par exemple, quand on est dans un club amateur, la galère pour les éducateurs, c'est de regonfler les ballons. Quand on a 30 ballons et qu'avant chaque séance, on doit passer un quart d'heure à regonfler des ballons, c'est juste pas possible.
Donc là, il n'y aura pas besoin de les regonfler.
En fait, en tout cas, nous, c'est très important pour nous de vérifier que le gonflage durable du ballon soit quelque chose de sur lequel on est reconnu. Et nous, on veut faire en sorte que notre ballon, si on peut éviter de le regonfler pendant 15 jours, 3 semaines, pour les clubs amateurs, c'est une vraie valeur. Pour les clubs pros, de toute façon, l'intendant, avant le début de chaque séance, il le fait. Mais s'il peut éviter de le faire, c'est mieux.
Quand tu parles beaucoup de clubs amateurs, du football amateur, mais même dans les centres de formation, c'est toujours un jeune souvent qui le fait. Donc la problématique, ballon, amateur, elle est partout. Ouais. Tu as beaucoup parlé du football amateur et football pro. Donc à partir du moment où vous décidez de vous lancer dans le sponsoring de ballon, d'être le sponsor du ballon de la Ligue 1. Donc là, vous envoyez un message fort. C'est quoi le message que vous voulez envoyer ?
Le message, déjà, c'est de montrer que l'image que peut avoir Kipsta, celle qui a été celle qu'on a créée, en fait, la marque elle date de 98, et puis on a créé d'abord des produits débutants, loisirs, bien pour la famille, bien pour débuter le football, et puis souvent le schéma ou le réflexe était de dire mon fils, quand tu seras un bon joueur ou quand tu voudras vraiment faire ton vrai sport, on ira t'acheter une vraie marque. On a tous dit ou entendu ça, on va se le dire, et moi je suis très très conscient de ça. Et finalement, ça fait quelques années qu'on a beaucoup investi pour changer cette image-là, et donc le fait d'être présent sur les terrains professionnels, c'est de frapper un grand coup et de dire ça y est, Kipsta, c'est une marque qui est une vraie alternative à ce qui peut se faire sur le marché. Et nous, notre combat, notre schéma, c'est de dire on est une alternative crédible avec des produits qui vont être très techniques et qui vont être le plus accessible possible, mais surtout très techniques.
On va rentrer dans le produit parce qu'on a pas mal de questions sur le sujet, comme tu peux l'imaginer. Mais je reviens rapidement sur la partie test. Et là, ma question, elle va plus vers Edouard. Tes joueurs, on te demande de tester un ballon, tu regardes quoi ?
La trajectoire, la sensation, dans un premier temps, tu jongles avec.
Ouais.
Ok. Et puis après, la trajectoire, donc tu fais des frappes, tu fais des transversales et vois si ça flotte énormément. Le ballon, ça a toujours été un vrai sujet. C'est pour ça que vous vous attaquez à ça de suite, c'est pas évident. Alors, vous avez 10 années d'expérience, de tests, mais je sais que nous, les équipementiers qu'on a pu avoir, en l'occurrence, c'était une marque Nike.
Nike, ouais.
Il y a eu un. Nous, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, on avait la possibilité de le tester en amont. Mmh. Et effectivement, on trouvait que. Enfin, il y avait beaucoup de bad buzz autour d'un certain ballon, un ballon jaune, je me rappelle, qui flottait beaucoup. Et, y avait
jaune
beaucoup...
et violet, c'est ça avec...
Ouais, jaune et violet. Et il y avait beaucoup de personnes qui le critiquaient. Et c'est pas évident, en fin de compte, de s'attaquer de suite à un ballon. Le ballon, c'est comme les chaussures, c'est super important.
En fait, ce que je peux vous dire en plus là-dessus, c'est que nous, on avait fait des tests en amont. Et puis, une fois qu'on on a eu l'accord avec la Ligue, on a été retenu, on a fait aussi des tests après. C'est-à-dire qu'on a été dans 5 ou 6 clubs de Ligue 1 à la reprise du championnat, à la reprise de l'entraînement, et puis 4 clubs de Ligue 2 pour faire tester encore une fois le ballon et récupérer un maximum d'avis. Parce que l'objectif, un, c'est que les joueurs, en tout cas, comprennent et valident le fait que le ballon, il n'y a pas de sujet, en tout cas, c'est un super bon ballon. Et aussi s'inscrire avec le plus de joueurs professionnels possible dans une démarche d'amélioration du produit. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il est très bon aujourd'hui, mais avoir des préférences et souhaiter pousser tel ou tel curseur. Et c'est aussi la démarche qu'on va entreprendre avec les joueurs qui le souhaiteront, c'est d'essayer d'améliorer encore plus que ce qui peut être modifiable sans jouer sur d'autres paramètres. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que quand on était à la rencontre des joueurs, donc vous imaginez 8 clubs, à chaque fois des effectifs entre 20 et 28 joueurs. On a souvent les gardiens de but qui sont ultra pertinents, qui font des feedbacks. Honnêtement,
la trajectoire du ballon quand ça flotte et tout, ils peuvent te les démonter.
Ouais. Mais d'ailleurs, de mémoire, le joueur qui avait été très.
C'est Jérôme Alonso.
C'est Jérôme Alonso, c'est ça.
Ouais. Jérôme Alonso, à la fin d'un match, je crois qu'il avait pris un but. Voilà, il me dit, mais. Il avait, en conférence de presse, il a dit mais ces ballons, il faut arrêter avec ces ballons-là.
Et pourtant, c'était l'équipementier de son club.
Oui, c'est pour ça.
Je ne sais plus s'il était lui chez Nike personnellement, mais
non, il était chez Adidas, donc ça a été mal perçu. Mais lui, il a dit non, mais franchement, peu importe. Nike ou Adidas, c'était vraiment la trajectoire. Je ne peux pas la juger la trajectoire correctement. Ouais. Et le lundi, mardi, on a eu le mec de Nike qui est venu, il nous dit bon les gars, faites gaffe à ce que vous dites parce que c'est voilà. Mais effectivement, c'était pas évident. Après, on s'y habitue. Après, c'est une question de.
Exactement. Et c'est exactement ça. Edouard, t'as raison. En fait, les gardiens, en fait, nous font des feedbacks très précieux. Et après, dans les joueurs, il y a ceux qui nous disent un ballon, c'est un ballon. Et vraiment, donc il y en a sincèrement. On n'en tire rien, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, ils considèrent de toute façon qu'ils vont s'habituer. Et il y en a d'autres qui font des retours aussi qui sont très pertinents. Et donc, nous, on prend tout ça en compte. Mais ce qui est certain, on a eu beaucoup ça. Les joueurs nous disent, de toute façon, on mettra un match, deux matchs ou un entraînement d'entraînement, on va s'habituer. Et ça sera un peu plus peut-être compliqué pour les joueurs de Ligue 2. Parce qu'aujourd'hui, le ballon de la Ligue 1 et le ballon de la Ligue 2 ne sont pas les mêmes en termes de technologie. Je ne vais pas être trop technique, mais ce n'est pas les mêmes technos.
Et pourquoi ça ?
Parce que c'est des choix d'équipementier. Le ballon de la Ligue 1, c'est le même ballon techniquement. C'est un procédé qui est du thermocollé. C'est le même ballon que la Champions League, que la Première League, que la Liga. Et le ballon de la Ligue 2, c'est un ballon cousu machine. Donc c'est un process qui est un peu plus ancien, mais qui a d'autres caractéristiques, qui sont des très bons ballons aussi, mais qui sont différents. Et là, par exemple, on a la Bundesliga qui joue avec un ballon comme ça. Donc c'est un peu plus traditionnel.
Ouais.
Et donc, les joueurs de Ligue 2, quand ils jouent ou en Coupe de France, ou quand ils font les matchs de barrage avec les ballons de la Ligue 1, ils ont toujours un petit peu de mal à ils leur font quelques temps pour s'adapter, mais ils s'adaptent au final.
Ce que tu vas me dire, c'est que Kipsta, par contre, vous allez garder le même ballon, ou alors même vous.
Oui, non,
Kipsta,
nous ce qu'on veut,
c'est une différenciation.
Nous on veut permettre aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 de jouer avec le même ballon.
Oui, parce que sinon c'est aberrant quand même.
Oui.
C'est injuste.
C'est injuste, pas forcément, parce que ça reste deux très bons ballons.
Pourquoi faire de différence?
Je sais pas, l'occurrence, c'est pas, ça sera pas notre décision.
Ouais, non, mais c'est bien.
Je suis pas au fait du truc du tout, mais j'imagine que tu as aussi peut-être un côté commercial. Peut-être que c'est aussi plus moins cher de faire un ballon cousu sur la Ligue 2, et que quand tu es une ligue, tu prends une décision de dire j'ai une ligue qui génère moins de revenus, donc je vais les outiller avec quelque chose de différent. Mmh. Alors, je suis pas du tout si c'est le cas, mais j'imagine que ça a peut-être une des explications.
Alternative football.
Tu parlais tout à l'heure du fait, d'ailleurs la formulation était assez précise, je trouve, et effectivement c'est des choses que tu as dû vivre, de dire je t'achète des Kipsta et quand tu seras un vrai joueur, je t'achèterai d'autres marques. Les marques que l'on pense naturellement quand on pense football, marque premium, c'est Nike et Adidas.
Ouais. Il y a Puma également, il ne faut pas les oublier.
Ouais, alors justement, ça fait partie de ma question. C'est, nous, on est d'une génération certaine où, typiquement, moi, ma génération, c'était Nike et Adidas. Puma, c'était pas encore dans le débat.
D'ailleurs, ta génération, c'est plus Adidas que Nike même.
Alors moi, je suis plus Nike parce que j'ai été supporter du PSG et que l'un allait avec l'autre. Mais,
moi, ma génération, il y avait Puma. Puma est revenu.
Ouais.
Il y avait Nico Anelka qui a signé avec Puma.
Mais c'est plus tard, ça, non? Anelka, ouais, quoi que c'est début
2000,
des
2000, je suis désolé, c'est vrai que voilà, 2000-2001, il est signé avec Puma.
C'est vrai.
Mais Puma, ça a toujours été là. Enfin, il y a eu Adidas, Nike, et puis Puma derrière, qui faisait parfois des remontées depuis la signature de Neymar. Voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était quoi ta question donc? Et
Et donc, non, ma question, c'était, donc Puma, ajoutons Puma, parce que, oui. Effectivement, aujourd'hui, il est dans ce braquet-là. Bah, comment on se développe dans l'ombre, entre guillemets, de ces géants-là, et qu'est-ce qu'on propose ?
En fait, c'est un peu le... C'est un peu le... Mon job, en fait, hein, c'est trouver avec, avec l'équipe une manière d'exister différemment. Alors, soit dans ces cas-là, on dit on va faire du Me Too et on essaie de faire pareil. Et notre singularité, c'est juste d'être moins cher. Auquel cas, je pense que ça, on a essayé de le faire, mais ça n'amène rien parce que finalement, les joueurs, les amateurs, ceux qui veulent acheter des produits, bah, ils s'identifient à des choses bien particulières. Soit on essaie de trouver.
Quand tu dis particulier, des joueurs, comme les enfants. Quoi. Voilà, de suite, Neymar, ouais. Mbappé.
Oui, c'est ça.
Donc, Zidane, enfin, tu vois.
Exactement, ouais, ils ont des icônes et on leur dit, bah, tiens, ça va être les mêmes choses que ça, mais juste moins cher. Bah, le moins cher versus ça me fait rêver ou ça, ça rivalise pas. Soit on essaie de trouver notre propre voie, en fait, notre propre chemin. Et donc, nous, depuis quelques années, Kipsta, c'est devenu une marque 100% football. Et en fait,
Depuis 2016, c'est ça, hein.
Depuis 2016, ouais. On pourra revenir dessus, mais c'est en lien avec une stratégie d'entreprise. Et donc, depuis 2016, on s'est concentré uniquement sur le football. Et notre sujet, ça a été de se dire, on va trouver une singularité. Notre singularité, c'est d'améliorer. Alors, c'est pompeux ce que je vais dire, mais ça, je vais l'expliquer après. C'est améliorer durablement le quotidien des footballeurs. Et donc, le quotidien des footballeurs, ça veut dire que notre job, c'est d'identifier tous les problèmes qu'un footeux peut rencontrer dans son quotidien. Alors ça peut aller de la chaussette qui descend en permanence, des billes noires qui collent quand on joue sur un synthétique, du ballon, on en parlait tout à l'heure, du ballon qui se dégonfle tous les trois jours. On peut imaginer mais des ampoules aux pieds, de l'ongle noir du footballeur, que tout le monde a connu ça.
Hiver,
et donc c'est
terrible.
Un peu faire la liste de toutes les problématiques qu'un footeux peut rencontrer avec l'ensemble de ses produits et d'essayer d'y apporter une vraie réponse, mais pas un truc, on vous dit que c'est comme ça, non, scientifiquement, prouvé, avéré avec des tests, avec des partenaires, avec des gens qui vont le démontrer, avec du corps médical parfois également. Et donc notre singularité, c'est de se dire, il y a des problèmes à résoudre dans le football, certains ont envie de s'en occuper et c'est notre cas. Et donc ça, c'est notre voie, c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, on doit se détacher simplement de l'aspect esthétique, l'aspect marketing, l'aspect, voilà, il y a des choses qui sont obligatoires, du pur aspect technique du produit. Par contre, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'essayer de résoudre ces problématiques-là et de le faire le plus durablement possible.
J'imagine que c'est aussi directement lié à la stratégie retail, dans le sens où, un exemple, j'ai deux exemples en tête, pardon. Le premier, c'est, si là, tout à l'heure, je suis allé sur l'application, hein, sur le site mobile de Decathlon, ouais. On est en hiver, la première chose qu'on propose, c'est pas des chaussures, c'est sous-vêtements.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai une problématique qui est calendaire, il fait froid en hiver, je suis un footballeur, la première chose qu'on va me suggérer ou me proposer d'acheter, c'est des sous-vêtements. Donc j'imagine que ça, vous le travaillez aussi en fonction de la stratégie commerciale et les deux sont liés.
Alors oui, sachant que, bien évidemment, Kipsta, c'est le groupe Decathlon, ça c'est clair. Par contre, il y a bien deux métiers différents. Nous, notre métier, c'est de concevoir des produits. Et donc moi, mon métier prioritairement, c'est d'animer une équipe de conception, des ingénieurs, des designers, des chefs de produits, de répondre à ces problématiques, de développer des super bons produits. Et puis après, il y a le métier de Decathlon, donc c'est une organisation un peu matricielle, qui, elle, est chargée de vendre ces produits en fonction de la saisonnalité. Donc là, effectivement, on est fin d'année. Il y a de fortes chances que les footeux qui jouent en ce moment, tous leurs équipements traditionnels de crampons, etc., ça soit fait déjà depuis la rentrée, et que le produit qui leur manque en ce moment, il commence à faire froid, c'est le petit bonnet, le petit sous-maillot qui va bien, et que si jamais il a besoin de crampons, bah, il saura où les trouver. Alors que le produit un peu, tiens, ça caille, là j'en ai besoin tout de suite, comment je fais en sorte, j'ai pas envie de me perdre dans l'arborescence du site Decathlon, j'ai envie de le trouver tout de suite, ça c'est de l'animation commerciale, mais c'est pas forcément...
Votre sort.
Ma responsabilité, c'est Decathlon France qui gère ça.
Et pour rester sur ce thème de Decathlon, on comprend bien la scission de la responsabilité. Est-ce que dans tes échanges avec eux, l'idée c'est aussi du coup de limiter l'offre que propose Decathlon dans les marques que vous distribuez, typiquement Nike, Adidas, Puma qui sont toujours présents chez Decathlon. Et encore, ça c'est plus ma
Nike.
Plus Nike, d'accord. Bah, tu vois, mais c'est exactement ça. Ma perception, moi, de client Decathlon, c'est que quand j'étais plus jeune, effectivement, j'allais chez Decathlon, j'avais le choix entre les produits des marques Decathlon, mais j'avais aussi une large gamme de produits d'autres marques.
Quand tu allais chez Decathlon, en fin de compte, tu regardais d'abord les produits.
Mais c'est, oui,
et
mais
après, par défaut, tu allais regarder les produits.
C'était un magasin de sport qui avait ses propres marques. Ouais. Aujourd'hui, mon expérience de client, c'est plus Decathlon, c'est le magasin qui vend ses marques, mais qui a encore quelques produits des concurrents, entre guillemets, dans la marque. Ça, tu confirmes que c'est quelque chose qui tient dans la stratégie du groupe ou c'est simplement que la manière dont le retail se fait a changé, donc c'est comme ça que vous l'adressez?
Ouais, alors... C'est, je vais te refaire un petit peu, ouais. Je vais revenir 2-3 ans en arrière pour que tu comprennes bien, ou même un petit peu plus, faire un petit peu d'histoire, mais très rapidement. Decathlon, dans les années 95-96, a commencé à créer ses propres marques, Quechua, Tribord, Domios, etc. Kipsta est arrivé après. Et puis petit à petit, bah, ces marques-là, elles ont pris de plus en plus de place dans les assortiments, dans les linéaires, mais pas au forceps, hein, tout simplement parce que les clients trouvaient les produits plutôt sympas, accessibles, malins, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis petit à petit, bah, cette part, elle a été grandissante dans nos linéaires et donc dans nos chiffres d'affaires. Et puis en 2016, c'est aussi là où le Kipsta s'est concentré sur le football. Il y a une stratégie d'entreprise qui s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire proposer dans nos magasins que des produits de nos propres marques. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une bonne stratégie, parce que tu l'as bien dit, c'est-à-dire que les clients, ils viennent chez Decathlon parce qu'ils savent qu'ils ont du choix. Et après, souvent, très souvent, ils repartent avec des produits de marque Decathlon parce qu'on leur a permis de comparer. Et puis parce qu'ils estiment que bah, parfois, on n'a pas besoin. Voilà, ça fait le job, ça peut coûter moins cher, etc. Et donc, effectivement, en tant que client, sur les dernières années, on peut vraiment avoir... C'est plus qu'une sensation, ça a été réel. Il y a eu moins de marques. Et là, il y a eu depuis un an et demi, un retour en arrière pour se dire, mais le job de Decathlon, ce n'est pas de proposer que nos propres marques, c'est de proposer la meilleure offre possible et de permettre aux clients de faire son choix. Et donc, sauf que dans la stratégie, dans les achats de produits, quand tu décides quelque chose, c'est 8 mois, 9 mois après qu'en fait les achats sont faits au niveau international. Donc le temps que ça descende dans les magasins, ça peut avoir des incidences, pas tout de suite. Donc coup de barre à gauche, coup de barre à droite, bon ben... Tu peux avoir ce sentiment-là, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie actuelle, c'est vraiment de proposer l'offre, la meilleure offre possible pour permettre au client de faire son choix. Autre point qui est important et qui a été renforcé depuis un an et demi avec le Covid, c'est qu'on se rend compte que les comportements d'achat des clients, ils changent aussi. Et donc, l'offre, si tu vas sur decathlon.fr aujourd'hui et que tu vas sur maillot de football, par exemple, bah, tu vas te rendre compte des maillots, tu vas en avoir, je ne sais pas, à 500, 600, 700, parce que c'est une offre qui est beaucoup plus digitalisée, en mode marketplace, avec d'autres revendeurs qui viennent dessus.
Sur la plateforme.
Là où en magasin, tu auras peut-être qu'une grande partie de produits Kipsta, et puis simplement quelques produits, les meilleurs produits des maillots de club ou de maillots d'entraînement classique. Par contre, sur Internet, tu en auras 500, 600. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a une transformation globale du mode de distribution vers beaucoup plus de digitalisation et moins de stock immobilisé dans les magasins.
Alternative football.
On parle de Kipsta. Par exemple, moi, mon fils, par exemple, il a des produits Kipsta. Il fait du foot, c'est pratique, c'est top. Moi, j'en ai jamais eu, produits Kipsta.
Ouais.
Est-ce que je peux être la cible Kipsta? Est-ce que quand vous concevez des produits, vous dites, voilà, le papa de 40 balais, il peut le faire. Le joueur professionnel, ça peut être une cible, vu que maintenant, vous êtes sponsor de la Ligue 1, enfin, ballon de la Ligue 1. Est-ce que ça peut être une target? Le monde professionnel, le football professionnel, ça peut être une target. Si oui, comment vous allez vous y prendre?
En fait, ce n'est pas une target juste pour dire on est présent et on s'anime sur le fait de dire on a 40 joueurs, on a X% des joueurs de Ligue 1. Moi, honnêtement, ces chiffres-là, je ne les connais pas et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est d'avoir suffisamment de joueurs pro, Ligue 1, Ligue 2, Jupiler League, peu importe, qui sont non pas des sponsors, on n'est pas des sponsors, mais on est des partenaires techniques. Et encore une fois, moi, mon sujet, c'est de démontrer, de vérifier avec eux, avec leur exigence au quotidien, que si 15 joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 portent des produits Kipsta et qui valident réellement, bah globalement, 99% des joueurs amateurs du monde entier, ils ne devraient pas avoir de problème avec un produit Kipsta. Là où auparavant, comme on n'avait aucune caution technique aucune personne pour valider le fait que la chaussure répondait bien aux usages les plus exigeants, bah c'était douteux. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver en disant « Tiens, cette chaussure-là, elle coûte 50 euros ou 60 euros et nous, on te dit qu'elle vaut l'équivalent d'une chaussure d'une autre marque deux fois plus chère. Bah, » Tu me le dis, ok, tu fais ton job de commerçant. Mmh. Non, mais en fait, on ne te le dit pas simplement. Tiens, regarde, lui, gardien de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 2, il joue exactement avec cette chaussure-là. Et un des points qui est très singulier, qui est particulier chez nous, c'est qu'on est la seule marque au monde à permettre à des joueurs pros, alors permettre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui donnons à des joueurs pros des chaussures qui coûtent moins de 100 euros, même bien moins de 100 euros, et qui sont exactement les mêmes que celles que vous allez avoir en magasin. C'est-à-dire que toi, Edouard, tu le sais peut-être très bien, mais les chaussures avec lesquelles tu jouais, elles coûtaient en général entre 200 et 300 euros. Mais ces chaussures-là, elles étaient rarissimes dans les magasins. On les trouvait très peu parce que les stratégies des autres marques, c'était plutôt de faire un modèle à 150, un modèle à 100, un modèle à 80, etc.
Et t'as encore ça sur les maillots, t'as le stock pro qui est différent du maillot imitation pro qui est vendu et qui est différent du stadium.
Nous, notre job, c'est pas de différence entre l'amateur, qui peut être un amateur de très bon niveau, on peut être un joueur de National, National 2, CFA 2, et vraiment avoir ses vrais besoins. On fait pas de différence, on veut leur donner les mêmes caractéristiques.
Tu te sers des joueurs, entre guillemets, professionnels, les retours, pour avoir une validation sur la qualité de ton produit. Ouais. Une caution. Mmh. Ça, c'est top. Ouais. Mais ce n'est pas nécessairement une stratégie, ça. Parce que pour se faire connaître, vous vous faites connaître. Alors, peut-être que vous n'avez pas nécessairement envie de vous faire plus connaître que ça. Mmh. Mais pour exister, entre guillemets, par rapport aux trois, comment est-ce que tu as une stratégie particulière, un plan d'action? Globalement, ce qui se fait dans les trois grosses marques, c'est tu sponsorises deux, trois joueurs, mais pas nécessairement des joueurs de Ligue 1, des internationaux ou des bons joueurs, des icônes pour que ça mette un peu plus de lumière sur ces produits-là. Est-ce que c'est une vraie envie ou alors vous avez peur que si jamais vous mettez en lumière trop le côté professionnel, vous perdez un petit peu les amateurs?
Je complète simplement parce qu'effectivement, ça va totalement dans le sens que j'ai demandé. On a aussi l'impression que c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé. Je me rappelle de Landreau qui était ambassadeur Kipsta et du LOSC qui a été sponsorisé par Kipsta. Oui. Est-ce que la raison de ne plus le faire, c'est aussi parce que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, vous êtes revenu de ce modèle-là? C'est simplement une précision sur la question.
Je vais essayer d'y répondre sans langue de bois, en tout cas. Est-ce que c'est une stratégie? C'est pas une stratégie qui est affichée clairement. Par contre, moi, je reste à l'écoute de toutes les opportunités ou les possibilités qu'il peut y avoir. J'essaie juste d'être vigilant sur une chose. Nous, ce qui fait qu'on est aussi différent des autres, c'est le prix. Et moi, j'aimerais qu'on puisse être jugé sur la qualité de nos produits et pas uniquement sur le fait que, tiens, parce qu'on est moins cher, forcément, c'est moins
cher. Tu sais que malheureusement, c'est un raccourci. Si je te dis ça, c'est parce que l'une des questions qu'on voulait te poser au départ, c'était Kipsta, choix par lié au prix. Est-ce que c'est qu'un choix lié au prix? Et dans tout ce que on a bossé depuis une semaine, non, effectivement, c'est la tech et tout ça, beaucoup de technologie, beaucoup de...
Donc, si on veut lutter contre ça, effectivement, on a... une option qui est de faire comme finalement font beaucoup, c'est-à-dire de faire beaucoup de sponsoring et de l'achat d'images. Une des conséquences, je ne dis pas que c'est la conséquence unique de ça, mais une des conséquences en faisant ça, c'est que ça risque de nous faire augmenter fortement nos prix. Et ça, c'est un peu dans notre ADN. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, Kipsta, ça doit être technique, ça doit être durable. Et le troisième point, c'est l'accessibilité. Et moi, mon job, en tout cas, c'est essayer de garantir le plus possible ça, parce que, en fait, là, on est focus sur le marché, le monde professionnel, peut-être un peu franco-français. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Decathlon, on est monde, Kipsta, on est monde, même si moi je suis français et qu'on est basé dans le nord de la France, on vend dans une cinquantaine de pays et qu'il y a plein d'endroits dans le monde. Pouvoir s'acheter une chaussure à 50 euros, c'est déjà très compliqué. Et imaginer pouvoir jouer avec un produit qui a la qualité du niveau professionnel, c'est juste quelque chose d'impossible. Et je trouve que c'est assez noble. Alors, c'est peut-être un peu moins...
Il peut y avoir une économie d'échelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes tellement nombreux, à un moment donné, les prix, au départ, peut-être, il va y avoir une répercussion, mais après, vous allez pouvoir les diminuer. Garder,
oui. Donc, c'est pour ça que je te dis pas qu'on le fera pas. Je te dis que ça ne sera pas une stratégie, je pense, dans les 2-3 ans, ce ne sera pas une stratégie massive.
D'accord.
Si c'est la question...
Là, vous êtes dans la tech. Vous êtes dans la tech, la qualité du produit.
Parce que tu vois, le fait d'être équipementier, partenaire technique de la Ligue 1, c'est pas anodin non plus.
Non, bien sûr.
C'est pas anodin. On ne parle pas d'un championnat amateur d'un pays au fin fond de l'Amérique du Sud.
Je comprends.
On parle d'un championnat
amateur. Tu sais que dans le foot, on veut tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment, moi, j'ai entendu Kipsta, bam, vous êtes sponsor du Ballon Ligue 1. Je me dis, bon, mais next step, quoi. Alors que c'est déjà un step. C'est un, déjà
c'est,
un,
c'en, c'en est déjà un. Et puis nous, on a l'avantage d'être dans un groupe qui est là, qui est construit pour durer, pour performer. Et moi, en fait, je suis pas là pour faire un coup en 2022 ou en 2023. Je suis là pour faire en sorte que Décathlon et le football chez Décathlon soit un endroit juste incontournable pour les footballeurs par sa propre marque Kipsta et par la complémentarité de produits que n'importe quel client pourra trouver.
Mais tu as dit un truc intéressant, je pense que c'est allié aux stratégies Nike Adidas, c'est aujourd'hui sponsorisé Mbappé, sponsorisé Messi, Ronaldo. Ça coûte beaucoup d'argent et donc pour pouvoir financer ça, il faut avoir une politique de prix qui te permet de le supporter. Et je pense que l'arbitrage, il se fait aussi à ce niveau-là. Et après, pour être totalement complet, quand on est dans le sujet des marques, on est beaucoup aussi sur l'ADN. C'est-à-dire que demain, j'imagine que c'est très difficile pour Nike et Adidas de dire, vous savez quoi, le sponsoring, on arrête. C'est plus nous. Et Nike, on dit, on va faire que de l'ino, et on va être la marque de l'ino. Ou Adidas, on va être la marque historique, la marque de l'héritage, c'est un peu déjà ce qu'ils font, mais on va arrêter de sponsoriser les nouveaux mecs. C'est un tel shift en termes d'identité, tu t'attends en tant que, et voilà, en tant que fanboy Nike, je suis concerné parce qu'ils peuvent me vendre à peu près tout ce qu'ils veulent. J'attends de la marque Nike qu'elle sponsorise le meilleur footballeur du monde. J'attends de la marque Adidas à peu près la même chose.
Mais en fin de compte, c'est la question que je vais te poser. Nike, en fin de compte, ils ont un côté aspirationnel. Vous, Kipsta, vous ne l'avez pas encore. Et est-ce qu'il y a est-ce que vous aussi, vous allez essayer de... Tu vas travailler sur ça ? Grosso modo, si je porte du Kipsta, je dois ressentir quoi ? Enfin, je suis quoi ?
Là, je ne sais pas te répondre précisément aujourd'hui. Par contre, je vais te répondre en disant que la plupart des marques du football aujourd'hui sont très très fortes sur l'émotion qu'elles génèrent. Et l'aspect pur rationnel, donc tu disais tech tout à l'heure, finalement, ça arrive au deuxième ou troisième niveau. C'est un choix et ça fonctionne bien. C'est eux les leaders aujourd'hui. Nous, dans notre manière de concevoir les choses, on a fait exactement l'inverse. En fait, on a voulu mettre du rationnel à tous les niveaux en disant « non, mais l'émotion... » Et donc, en fait, simplement, ce que je suis en train de dire et ce qu'on essaie de construire tranquillement avec la marque Kipsta, c'est de mettre un peu plus d'émotion. Je ne sais pas si je vais dire beaucoup, mais en tout cas, un petit peu plus d'émotion au milieu de cette rationalité, des critères très objectifs. Ouais. Justement parce qu'on se rend compte que le football, c'est avant tout des émotions. C'est... Et donc, on ne peut pas simplement arriver avec un discours purement scientifique, mais on veut pas non plus nous arriver en disant voilà que les émotions, parce que ça d'autres le font très bien et le feront mieux que nous avec d'autres moyens. Et donc nous, en tout cas, notre sujet, c'est on va prendre un exemple, mais une chaussure de foot en moyenne pour un joueur pas un joueur pro mais un joueur qui joue régulièrement, c'est quelques mois. Au bout d'un moment, ça se décolle, ça se déforme.
Je te coupe simplement deux secondes parce que du coup je pose la question à Edouard, tes chaussures tu les gardes combien de temps?
Je sais pas. En fin de compte,
merci, tu nous as vachement aidé là.
Parce que, non, mais pourquoi ? Parce que quand tu es sponsorisé, limite, il y a toujours des modèles. Tu as 3-4 modèles par saison, donc ils te les envoient à chaque fois. Même tes chaussures, elles ne sont pas usées.
Ouais, tu changes quand même.
Tu n'as pas le même comportement quand on te donne des pompes et tu peux en plus en donner aux jeunes du centre, aux copains, etc. Ouais. Tu peux en faire profiter autour de toi.
J'ai jamais payé mes chaussures, mais si tu dois payer tes chaussures, tu réfléchis à deux fois. Quand tu achètes une paire à 200 balles, tu veux qu'elle tienne toute l'année, sauf que tu l'utilises tout le temps, elle ne tient pas toute l'année.
Non, on va dire qu'un joueur qui est un bon joueur qui va s'entraîner, on va dire, 3 fois semaine, qui va faire un match, ça va durer 6 mois maxi. Ben nous, tout à l'heure, quand je vous disais c'est quoi les problématiques du quotidien, pour nous, ça, c'est pas normal. Et donc, nous, notre sujet, c'est d'investir en recherche et développement pour dire ta pompe, elle sera toujours aussi bonne qu'avant, tu auras les mêmes sensations si tu veux un truc microfibre, seconde peau ou du confort. Donc ça, on ne va pas toucher à ces critères qui sont obligatoires. Par contre, on va faire en sorte que ta pompe elle puisse durer une saison et demie, 2 saisons. Et donc c'est aussi...
Jusqu'où ça peut aller ? En termes de tech, aujourd'hui, est-ce que tu as des projections qui disent un jour, je serai capable de faire une pompe qui va durer 5, 10, 15... Je force peut-être un petit peu.
Non, mais alors...
toute ma carrière, c'est pas mal.
On a une chaussure qu'on va commercialiser, qu'on va garantir 10 ans contre le décollement. Le décollement, c'est simplement entre la semelle et la tige. C'est la première raison de renouvellement d'une chaussure, c'est qu'on fait un trou, le pied gauche, il frotte, ou ça se décolle. Et donc, cette chaussure-là, avec des brevets qui va être lancée en début d'année, celle-ci, on va la garantir 10 ans.
L'autre chose qui m'a interpellé, et ça c'est surtout au moment où le deal avec la LFP a été annoncé, parce que je trouve que, en tout cas, étant dans le milieu du foot et en France, l'histoire m'a paru assez jolie, belle à raconter. C'est le fait qu'une marque française soit sponsor du championnat français. Est-ce que ça, c'est une carte que vous avez jouée auprès de l'LFP ? Je reviens aussi sur le fait que Decathlon, tu as raison, c'est une marque internationale. Moi, j'ai vécu dans d'autres pays, en Angleterre, notamment, il y a des Decathlon, on en retrouve partout. Mais c'est quand même très identifié comme marque française. Oui. Est-ce que quand on va voir la LFP, c'est une carte qu'on joue particulièrement en disant on a aussi une très belle histoire à raconter ensemble ?
Alors, on n'a pas forcément besoin de la jouer, en fait, c'est évident.
Parce qu'elle est naturelle,
c'est QFD. Ouais.
Voilà, c'est QFD là-dessus, la Ligue, c'est très bien, marque française, et donc bien sûr qu'on en parle. Mais
est-ce que tu penses, excuse-moi de te couper, est-ce que tu penses que, outre le fait qu'il y a la tech derrière vos produits, ça a joué aussi le côté Made in France, pas Made in France, mais ouais. France.
Dans la tête
français,
de l'AFP, ouais.
Dans marque la tête française, de l'AFP, marque française.
Oui, je pense que c'est un plus, et je pense également que ce qui est un gros plus, c'est le réseau de distribution Decathlon. C'est-à-dire qu'on parle de plus de 300 magasins en France.
Accessibilité. Donc
voilà, présent partout. Donc, en termes de distribution, de diffusion des produits et donc de la marque LFP, c'est très important. Mais également, l'implantation de Decathlon à l'international. C'est aussi important de pouvoir permettre à la Ligue 1 de rayonner aussi au niveau international. Et ça, Decathlon peut le permettre.
Excuse-moi de revenir dessus encore, mais à partir du moment... Là, ça fait depuis une demi-heure que je vois, que je t'écoute, et je ne peux pas m'empêcher de dire, mais pourquoi du coup... Vous ne voulez pas sponsoriser, sans nécessairement sponsoriser Mbappé parce qu'il coûte un bras, mais des joueurs, des très très bons joueurs, André, tu vois, de Ligue 1, pour mettre encore un peu plus de lumière sur ça. Vous avez peur que, je ne sais pas moi, de faire une dissociation entre le monde professionnel et amateur ?
Non, du tout.
Ou alors vous avez peur tout simplement que les entourages et les agents vous demandent tellement de thunes pour un sponsoring. Bon,
déjà, discuter, c'est gratuit. Hein.
T'as raison.
Donc ça dépend avec qui.
Oui, c'est vrai. Honnêtement, Edouard, on ne se l'interdit pas. Donc ça pourra arriver. C'est juste que nous, on est une petite marque. Hein, et donc, on a aussi des priorités, des choses sur lesquelles on a envie de...
Voilà.
Et là, la priorité du moment, c'était plutôt d'avancer fortement sur le ballon. Il y a la Ligue 1, il y a la Jupiler League également qui a été... Donc voilà, c'est aussi on avance là-dessus. S'il y a des opportunités, s'il y a des rencontres, des joueurs aussi. Nous, on a une philosophie qui est assez particulière. C'est-à-dire, comme on n'est pas une volonté d'avoir 250 joueurs, nous, tous les joueurs... En fait, on les connaît tous un par un. Moi, je les ai tous dans mon téléphone, mais dans le téléphone, c'est pas pour parler de leur contrat, hein, c'est pour parler de produits,
des feedbacks, de
chaussures, quand est-ce que tu viens dans telle ville, etc. Donc, c'est des gens qu'on connaît, voilà, qu'on invite sur le site, qui participent à la conception des produits, on leur envoie des prototypes. Donc, c'est aussi une philosophie particulière. Peut-être qu'on pourrait se dire, non, on va faire du pur sponsoring, c'est-à-dire que c'est de l'image. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on veut que les joueurs ils comprennent aussi, ils contribuent à l'évolution de leur outil de travail et ils contribuent aussi à l'évolution de l'image de la marque Kipsta. Donc aussi, tu le sais, dans le vestiaire, identifier des profils qui ont cette capacité, cette maturité, cette envie aussi de contribuer et pas simplement d'avoir ce côté image, c'est pas la grande majorité des joueurs qui sont intéressés. On en a quelques-uns, et souvent d'ailleurs, quand on a des nouveaux joueurs qui décident de nous rejoindre, c'est souvent un joueur du vestiaire qui a vu un tel, qui a, tiens, tes produits c'est pas mal, je peux essayer, oui. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Tu disais tout à l'heure, moi les marques me disaient de changer de produit. Moi les joueurs, en fait, ils choisissent le produit avec lequel ils veulent jouer. C'est-à-dire qu'on a 4-5 modèles avec lesquels ils peuvent jouer. Ils jouent avec le modèle qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent. Moi, mon sujet, c'est qu'ils soient
en Kipsta.
Bien dedans. Ouais, enfin, en Kipsta et bien dedans.
Bien dedans.
Parce que je veux...
Ça, c'est, s'ils sont en Kipsta, ils sont foncièrement bien dedans. C'est un pléonasme. je rectifie. Les marques nous conseillaient fortement. Parce que moi, ils pouvaient... Enfin, franchement, même quand ils me voyaient jouer avec les chaussures, ils me disaient, Edouard,
fais
un effort. Mais je me sens bien. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils voient un mec qui joue bien avec des chaussures Adidas. Après, ils savent que je suis old school. Mais,
Pour le coup, j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui.
Mais n'hésite pas, vas-y.
Vous laisse.
on continuera la journée après. On va aller boire un coup. Mais tu avais, donc toi, tu as été sponsorisé par deux marques qu'on a citées tout à l'heure.
Oui.
Tu as été chez Nike et chez Adidas. Ce dont Frédéric parle, le retour produit t'impliquer dans la conception, c'est des choses que tu as vécues.
Si, on l'a fait.
Ouais.
On l'a fait surtout avec Nike.
D'accord.
Comme elle était sponsorisée avec le PSG. Mais à la différence, c'est que demander des avis, okay, des feedbacks, mais tu sentais que sitôt que tu émettais un avis un peu négatif, c'était pas super bien perçu. Je raconte une anecdote, c'était Lolo Robert, donc on est dans les années 2000, c'était la Total 90, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et on est en stage de préparation, et les gars de Nike arrivent, alors les gars, comment vous sentez les produits? Bah super, top. Et Lolo Robert, moi, il me faut un peu mal derrière au talon, là. Et c'est assez étrange, et voilà. Ah bon, le talon? Oh, c'est bizarre. Et puis les deux, ils se retournent. C'est bizarre et tout. Mais pourquoi? Non, parce qu'on les a testés. On les a fait tester à Roberto Carlos, Edgar Davids. Il a cité 5-6 joueurs. Ils m'ont pas parlé du, du talon. Ah, oh, ben, excuse-nous. Oh, alors, du coup, tu vois, on a senti quand même que ouais, votre feedback il est important. Mais bon,
mais bon
a, voilà, voilà, on va pas changer foncièrement pour ça. Et ce que tu dis, justement, tout le monde a, a droit au chapitre. Bah, c'est quand même intéressant.
En fait. Encore une fois, ce qui se passe dans, ailleurs, j'en sais rien. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que les échanges qu'on a, on les a principalement avec des joueurs du championnat de France, parce que la plupart des équipes de conception sont à Lille et sont français. Et donc, ça facilite beaucoup. Et donc, nous, l'inverse, c'est qu'on a des joueurs qui, lorsqu'on leur envoie des prototypes, nous envoient une photo, une vidéo WhatsApp en montrant qu'ils ont pris un coup de, ils ont pris une paire de ciseaux en disant « Oh les gars, putain, ça m'emmerde, ça me fait mal. Moi, j'ai coupé ça, j'ai fait ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. »
Ça peut être un plus,
voilà. Et donc là, et, le groupe, il y a les ingénieurs, les designers qui voient ça, donc ça se chambre un peu, ça, ça y va un petit peu. Mais ils participent réellement. Donc, c'est pas « Dis pas ça parce que ça va pas être apprécié. » Non, au contraire, c'est « Dis-nous tout ce qu'il faut pour l'améliorer. » Et donc, en l'occurrence, le joueur, pour pas le citer, c'est Quentin Bernard, c'est un joueur de l'AJ Auxerre. Mais Quentin, il reçoit tous nos protos, il nous les démonte, il nous fait des retours, il nous fait des... Mais lui, pour le coup, il contribue à 200%. Et c'est notre philosophie, c'est surtout pas de se mettre la tête dans le sable quand on a un retour qui est négatif, c'est de, d'aller avec le joueur, de le faire venir ou d'aller le voir, et puis vraiment de concrétiser, de voir pourquoi il y a un problème. Donc, encore une fois, peut-être que si on avait 300... C'est certain, si on avait 300 joueurs, on pourrait pas faire ça.
Voilà, c'est ça, tu peux pas faire ça avec tout le monde.
Clairement, on pourrait pas. Et nous, on est boîte française, la conception, elle est en France, 100% des ingénieurs, des designers qui conçoivent les produits sont en métropole lilloise. Donc pour nous, c'est notre job en fait de le faire. C'est pas une coquetterie, c'est vraiment notre job de faire ça.
Alors le retour, est-ce que les gars là, qui sont sponsorisés par Equipsta, ils se font chambrer dans le vestiaire?
De moins en moins.
De moins en moins?
Ben
depuis,
ouais.
Depuis quand alors? Depuis, je peux te dire.
Tout à l'heure, tu as cité, Michael Landreau comme
oui,
étant
un
premier ambassadeur, mais sincèrement, à l'époque de Michael, heureusement d'ailleurs que c'était un mec comme Michael qui avait ce charisme, cette expérience, parce que lui, je pense qu'il a dû en prendre beaucoup, et il fallait avoir un peu d'aplomb. Honnêtement, je dirais que depuis 2-3 ans, on a beaucoup de retours de joueurs qui nous disent que déjà il y a beaucoup moins de chambrage dans le vestiaire, et voire même à l'inverse, les joueurs viennent le voir en disant « Dis donc, tu peux m'avoir un contact, parce que moi aussi j'aimerais bien être sponsor Keepstar. » Et sincèrement, on a des joueurs, je vais pas en citer, mais qui étaient très intéressés pour porter nos produits, qui sont arrivés dans le vestiaire, et puis qui après...
Ils n'ont pas assumé, mais ouais, c'est
ils n'ont pas assumé, mais clairement. Et puis des joueurs qui ont été internationaux, donc, et qui n'ont pas assumé cette pression, c'était il y a quelques années, c'était il y a 6-7 ans, cette affaire-là.
Non, mais c'est bien que tu dis ça. Moi, je sais qu'il y a une période, quand j'étais à Paris, j'avais les produits ASICS.
Ouais.
Et quand je les ai sortis, c'était un bleu un peu particulier, un peu comme celui-là. Là.
Ouais.
Même c'est le coach qui me dit... non.
Bon, Edouard, c'est pas sérieux.
Qu'est-ce qui se passe, là.
Tu veux pas jouer ce week-end.
Qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Ouais.
Mais les chaussures étaient bien, tu vois. Ouais. Mais il y a toujours ce, tu vois, quand dans le vestiaire, enfin, c'est un écosystème particulier.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu vas faire. Mais j'ai vu que les joueurs que vous sponsorisiez là, c'était à Lens, donc c'est deux tauliers quand même. Donc ils sont
avant d'aller,
pour les bouger, t'es d'accord.
Ouais.
Voilà. Et puis c'est des bons mecs et tout ça, donc c'est plus particulier. Donc c'est le choix des mecs est quand même important, quoi.
Pour nous, c'est important, en tout cas, d'être certain que les joueurs qui s'engagent avec nous soient des mecs qui aient de l'aplomb, qui sachent pourquoi ils sont avec nous, qui soient en capacité d'expliquer. Et puis, s'ils sont chambrés, d'assumer. Parce que
nous, dans le vestiaire, on est un peu taquins. Tu vois, par exemple, quand on est revenu sur Mika Landreau...
Oh, ça ne te ressemble pas d'être taquin, ça.
Pour Mika, par exemple, on dit... Exactement, c'est un super international, mais c'est un gardien de but. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est parce que c'est un gardien de but qu'il a des Keepsta au pied. Tu vois le raccourci. Mmh. Et il y a beaucoup de... Vous avez des joueurs, des gardiens. Et des joueurs qui ne sont pas catalogués techniques.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
Et les raccourcis dans le milieu du foot, c'est normal, il y a des Keepsta.
Mmh.
Parce que quand on est tout petit, on se dit, attends, t'as des kipsta au pied, mon pote. Montre ce que tu sais faire. Et donc, comment... bon, ils s'en foutent parce qu'ils sont relativement costauds pour se faire respecter, mais de l'extérieur, est-ce que tu penses que ça peut jouer des tours, ça, ou en disant que kipsta, c'est fait pour les bourricots, ou pour les bourrins, ou pour les gardiens
de but? Ouais, bien sûr, ça peut jouer des tours, mais pour autant, donc je fais quoi? On arrête et, ouais, et on ça. Fait non, obligatoirement comme les autres.
Je suis d'accord, je veux dire...
Hors de question.
Alternative Football.
Et la trajectoire sur les dernières années, nous, on a plusieurs indicateurs qu'on surveille, bien sûr, de nombre de ventes, etc., mais surtout des indicateurs de qualité produit, donc des retours, des feedbacks que nous font nos clients. Vous allez sur decathlon.fr, vous pouvez mettre des notes sur le produit, sur la chaussure. Il y a quelques années, on n'était pas bon, hein. Vraiment, elle s'est notée sur 5. La plupart, on avait plein de chaussures qui étaient autour de 2-8, 3, 3-1, 3-2.
Mais elle n'était vraiment pas bonne du tout? Ou alors, c'était, vous n'aviez pas assez de tech, vous n'aviez pas assez d'ingénieurs de quali?
Franchement,
ou...
on considère que ceux qui notent sont ceux qui l'ont acheté. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont déjà à l'aise avec le côté esthétique. Et donc, ça, on met ça de côté. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue confort, d'un point de vue résistance, maintien, il y a des choses à dire. Et puis, honnêtement, moi, quand un client me dit « ta chaussure, elle n'est pas bonne », bah, j'écoute le client, c'est-à-dire qu'il a des trucs à dire, je suis pas là à dire oui mais tu comprends Roberto Carlos, non. Oui. Si tu me dis que, bah, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Parfois on l'a vraiment mal fait, parfois c'est au niveau de l'assemblage qu'il y a eu un truc qui a merdé, mais en tout cas moi j'écoute beaucoup ça. En tout cas sur la chaussure, aujourd'hui, le chemin qu'on a fait en 3-4 ans, et c'est la famille sur laquelle on a progressé le plus en avis client, la moyenne elle doit être à 4,3 je pense, donc c'est des très très bonnes notes sur la chaussure. Ouais. Donc voilà, c'est aussi des choses qui nous font dire, bah oui, la route elle est très longue, on est plutôt en mode marathon ou ultra marathon, mais on est plutôt sur le, dans la bonne direction.
Alors du coup, j'ai encore plein de questions à te poser, mais là tu en amènes une un peu naturellement. 2016, Kipsta qui était la marque Sportco, devient la marque Foot.
Ouais.
Pourquoi? Et j'ajoute... Il va se foutre de moi, Edouard Cissé, parce que je vais encore faire une question à rallonge. Mais on a l'impression, encore une fois, peut-être que c'est simplement mon impression, auquel cas tu me le diras, les autres marques Decathlon, Quechua, Kalenji, on n'a pas l'impression qu'elles avaient le déficit de réputation qu'a pu avoir Kipsta. Tu vois, j'ai un exemple, la marque VTT de Decathlon à l'époque, c'était Rock Rider.
Ouais.
Enfin, quand j'avais 15 ans, avoir un Rock Rider, c'était la Rolls. Tu vois, t'avais un Rock Rider, t'étais le roi du quartier. Est-ce que le fait de faire un refocus sur un sport en particulier, l'idée c'était de dire on veut que Kipsta ait la même forme de réputation que nos autres marques Decathlon? Est-ce que c'est complètement décorrélé et j'invente un truc? Ou est-ce que...
Je peux te le dire si t'inventes un truc?
Ouais, hein, n'hésite pas.
Non, mais je sais pas si t'inventes.
Ça, ça fait, c'est souvent le cas.
Mais en tout cas, je vais te dire réellement ce que, pourquoi ça s'est passé.
Ça te fait rire, ça. Hein. J'adore.
En fait, donc, la stratégie en 2016, c'était de se dire on va créer autant de marques que de pratiques sportives pour permettre aux équipes d'être 100% focus sur ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est quoi les problèmes à résoudre. Et quand on est une marque qui traite du foot, du rugby, du basket, du hand, du volley, bah forcément, on est un peu plus
dilué.
On est un peu moins focus sur ce qu'on doit faire. Donc là, c'était très cohérent. On veut amener les meilleures réponses possibles. Donc, on va avoir des équipes qui vont être dédiées et on va leur permettre d'avoir une marque qui correspond. Donc ça, c'était une des vraies raisons. Par contre, ce que tu dis sur le déficit de marque que Kipsta peut avoir versus d'autres marques, en fait, c'est pas tellement ça. Le truc, c'est que plus tu es sur un marché qui est marketé, on dit un marché, plus le déficit des marques Decathlon de manière globale, il est réel. C'est-à-dire que ce que tu dis sur Kalenji, si là, vous faisiez une émission sur le running et tu fais venir mon collègue de Kalenji, vous allez lui poser la même question parce que dans le monde du running, des mecs qui font du 10 km ou du marathon, c'est la même chose. Les mecs, ils se regardent tous. T'as quoi comme pompe? T'as la dernière Nike, t'as truc. Donc, t'as Adidas, t'as Brooks, t'as Oka, t'as toutes ces marques-là. Et puis, bah, dans les pelotons, mais en tout cas dans les marathons ou les 10 km, bah, t'as toujours l'image. Ah, bah, tu cours en Kalenji, t'as pas d'argent ou ceci ou cela. Donc, c'est la même.
Tu vois, bon courage. Tu sais, quand même, on te juge, c'est vrai qu'on juge. C'est
ma méconnaissance du running, tu vois, me faisait penser que c'était pas le cas, mais en fait, si.
Donc honnêtement, considère que plus le marché est marketé, plus c'est un marché de marque où les marques sont très présentes, globalement, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Par contre, quand tu es sur des marchés qui sont un peu moins des marchés d'image, tu as cité le VTT. Effectivement, à part pour ceux qui font de la compète en VTT, qui vont dire, tiens, ça, c'est le dernier Lapierre, Cannondale, Specialized, etc. Ouais. Mais pour monsieur et madame tout le monde, cite-moi trois marques de VTT. Bah, globalement, tu risques de situer en cité peut-être Between, cité trois marques de Decathlon, tu vois. Donc, Rock Rider, voilà, très bien. Quechua, randonnée, tu es capable de citer une icône de la randonnée. Moi, je ne suis pas capable. Donc, toutes ces marques-là, comme il y a moins de marques et moins d'icônes qui les portent, c'est un peu plus facile de percer, d'être présent dans l'esprit.
Est-ce que tu as d'autres questions, Edorcé ? Parce que moi, j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais. C'était fascinant. Merci beaucoup. Peut-être le dernier mot pour toi dernière question de la saison.
La dernière question de la saison, non, c'est, il a répondu. Hein, je voulais pas. Moi, l'image que j'avais de Kipsta, justement, j'avais pas d'a priori négatif ou positif de Kipsta. Okay, il y en avait qui avaient des a priori, mais plus que négatif, c'est-à-dire ils dénigraient Kipsta. Et ce que tu viens de dire, j'ai très peu entendu, donc c'est cool, je suis content. Tu vois, je suis content que tu le dis peut-être partout ailleurs, mais en tout cas, moi, j'avais jamais entendu ou j'avais lu. Et du coup, Kipsta, c'est plus seulement une marque, tu vois, au rabais. Okay. C'est vraiment une marque qui existe, pour moi, hein, dans l'écosystème et qui a une valeur et qui a une mission. Et du coup, des marques à mission, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que ce serait plus facile pour moi, à l'avenir, de m'identifier à Kipsta. Sans avoir le truc Kipsta, attends, non, Kipsta, c'est fait que pour les... c'est cheap, non ouais. Enfin voilà, c'est un peu long, mais ça pour dire que Kipsta, et c'est ça qui est intéressant, et j'espère que ça performera. Ben, il n'y a pas besoin d'espoir, mais en tout cas, Kipsta pour l'avenir.
Ouais, non, et on a hâte de découvrir le ballon.
Super, en tout cas, moi je suis content que cette heure d'échange, en tout cas, vous permette de changer le regard, et je suis persuadé, mais là c'est même, je peux parier maintenant, que après votre visite au Kip Stadium, vous aurez encore changer de regard. Donc c'est pas voilà, je prends le pari, j'en suis sûr, parce que effectivement, ce qui se dégagera du site, l'âme, nos bureaux, les laboratoires, comprendre encore plus la philosophie, parce que ce que je vous dis finalement, c'est des paroles, mais vous allez pouvoir les vivre. Moi, j'essaie de l'incarner simplement avec mes mots et de manière très très spontanée, mais quand vous le verrez vraiment sur site et que vous échangerez avec les équipes et puis peut-être qu'on fera un foot ensemble, vous verrez en tout cas la mission.
Et pas ouf.
On peut pas être et avoir été. Hein.
Ouais, voilà, ça c'est un bon mot de la fin.
C'est fou.
Ça, voilà, moi, on fera un cut sur ça.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.